Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principales actualités de ce jeudi 8 juillet. En Nouvelle-Galles du Sud, 38 nouveaux cas de Covid ont été recensés alors que hier, les autorités ont annoncé que le confinement en cours à Sydney durerait une semaine supplémentaire jusqu'au 16 juillet. Dans les Caraïbes, à Haïti, le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando armé à son domicile, un acte qui pour l'instant n'a pas été revendiqué. Enfin, en Nouvelle-Calédonie, un nouveau président vient d'être élu il y a quelques heures seulement, après 5 mois de vacances à la tête du pouvoir à Nouméa. Le nouveau président est un indépendantiste, il s'appelle Louis Mapou. Nouveaux cas de Covid-19 ont donc été recensés aujourd'hui en Nouvelle-Galles du Sud. Parmi ces 38 cas, 11 personnes qui n'étaient pas à l'isolement durant la phase infectieuse. Gladys Bérégé-Client a rappelé une fois encore qu'il était essentiel d'éviter les visites chez les amis ou la famille à domicile, le virus se transmettant essentiellement dans des endroits clos.
Please, please, avoid contacts with other households. Please avoid visiting family and friends because you're not allowed to. When we talk about providing care or compassion, we're talking about one person visiting someone who might be isolated, dropping off goods or essential services or providing essential services. We're not talking about visiting extended family members. We're not talking about visiting friends.
Et puis donc, la veille, mercredi, la même Gladys Bérégé-Client a annoncé que le confinement en cours à Sydney allait être prolongé d'une semaine jusqu'au donc le 16 juillet, une décision soutenue par le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt.
We've been working very closely with New South Wales, the Prime Minister, myself, the Chief Medical Officer with our counterparts, and I think they've made the right decision. The Commonwealth Chief Medical Officer, Paul Kelly, has extended our Commonwealth hotspot for another week as well.
Le bilan épidémique est beaucoup moins lourd dans le Queensland, où on a recensé 2 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Et les 2 cas en question sont porteurs du variant Alpha, beaucoup moins contagieux. C'est ce qu'a précisé la médecin en chef de l'État, le docteur Janet Young.
When they went into home quarantine, they tested negative. They've now tested positive, both of them. So we've just gone and done some further work and they've had no public exposure sites. There is no risk there at all. And this is what we always want to see as a cluster evolves.
Et tandis que Sydney pleure, Melbourne rit, puisque dans le Victoria, ça fait maintenant 8 jours d'affilée qu'on n'enregistre aucun nouveau cas de transmission locale, à tel point que les autorités ont annoncé que le port du masque n'allait bientôt plus être obligatoire dans les écoles, ni dans les entreprises où les employés ne sont pas en contact direct avec du public. Le masque, il faudra quand même le garder en revanche dans les commerces, les bars et les restaurants. Ceci étant dit, la capacité d'accueil de ces établissements va être augmentée. Et puis en Australie méridionale, les autorités doivent se réunir aujourd'hui pour décider de rouvrir ou non ses frontières à d'autres États, notamment à l'Australie occidentale, au Queensland, au territoire du Nord, où des cas ont été détectés ces derniers jours, mais où la crise semble résorbée. En revanche, les frontières de l'Australie méridionale devraient rester fermées à ceux qui viennent de Canberra ou de Nouvelle-Galles du Sud. Et puis après, donc, la vaccination obligatoire pour les personnels travaillant en maison de retraite, ça avait été annoncé vendredi dernier par Scott Morrison à l'issue du cabinet national. La vaccination pourrait également devenir obligatoire pour toutes les personnes travaillant avec des personnes handicapées. Ce sujet, il doit être abordé demain lors du prochain cabinet national, autour donc du Premier ministre et les représentants de tous les États et territoires australiens. Cette vaccination obligatoire, elle est recommandée en fait par plusieurs experts sanitaires à un moment où seulement un tiers de ces personnes travaillant avec des personnes handicapées sont actuellement vaccinées. On tombe même à seulement 15% quand on prend en compte ceux qui sont complètement vaccinés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu les deux doses. Mais pour le leader de l'opposition, Anthony Albanese, c'est moins le fait d'une forme de résistance à la vaccination de la part des personnes travaillant dans ce secteur que l'incapacité pour ces derniers à mettre la main sur des vaccins.
The problem here is they cannot get vaccines. You can't make something when there's no vaccines available.
Sur un tout autre sujet, le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud débattra d'ici quelques semaines d'une possible légalisation de l'euthanasie. Cette proposition de loi, elle est portée par le député indépendant de Sydney, Alex Greenwich, qui travaille sur ce texte depuis environ 6 mois. Cette proposition, elle sera rendue publique la semaine prochaine, puis soumise au Parlement au mois d'août. À savoir que ça n'est pas la première fois que les parlementaires de Nouvelle-Galles du Sud se penchent sur la question de l'euthanasie. Une proposition similaire avait été faite en 2017. À ce moment-là, elle avait été rejetée. Haïti sous le choc, le président Jovenel Moïse a été assassiné mardi soir chez lui par un commandant armé. Un meurtre qui pour l'heure n'a pas été revendiqué, mais qui intervient alors que le président Moïse avait nommé quelques jours plus tôt un nouveau premier ministre qui s'appelle Ariel Henry. Et ce président défunt, il devait également organiser très prochainement de nouvelles élections, des élections réclamées à la fois par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi par l'Union européenne, dans un contexte général à Haïti de très grande insécurité et alors que le président Moïse souffrait d'une impopularité croissante. On écoute les explications de Romain Lemaresquier pour RFI.
Les Haïtiens se sont réveillés ce mercredi en apprenant la mort de leur président Jovenel Moïse. Dans un pays en proie à une très forte insécurité ces derniers mois, la faute entre autres à une guerre de gangs qui a fait de nombreuses victimes et à une hausse vertigineuse des enlèvements, c'est désormais l'inquiétude qui règne en Haïti. Qui dirige le pays? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? La police et l'armée sont-elles à même de rétablir l'ordre? Des élections vont-elles être organisées? Des questions qui restent pour l'instant en suspens. Au niveau du pouvoir, le Premier ministre par intérim Claude Joseph, qui devait quitter son poste ce mercredi suite à la nomination lundi dernier d'Ariel Henry, ne s'est toujours pas prononcé sur la suite des événements. Si l'on s'en tient à la constitution haïtienne suite à la réforme de 2012, si le poste de président de la République devient vacant, c'est le Conseil des ministres qui doit assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Des élections qui auraient dû se tenir selon un décret publié cette semaine le 26 septembre prochain, mais l'annonce de la mort de Jovenel Moïse pourrait bien chambouler cet agenda.
À Genève, où se trouve le siège de l'Organisation mondiale de la santé, cette organisation estime que le monde se trouve à un moment charnière particulièrement périlleux concernant la pandémie, le Covid-19, dont le nombre de victimes à travers le monde vient de franchir la barre des 4 millions, est toujours là et toujours dangereux. Michael Ryan, le chef des programmes d'urgence de l'OMS, appelle les États à ne pas lever trop vite les restrictions en place un peu partout, du moins pas tant que la couverture vaccinale aura atteint un niveau beaucoup plus élevé. On l'écoute.
This virus is evolving, this virus is changing, and we need to be very, very careful at this moment so that the gains that have been hard won by the behaviors and action of our population are sustained.
Et l'un des pays justement où le coronavirus fait actuellement des ravages, c'est un pays tout proche de l'Australie, il s'agit de l'Indonésie. Les hôpitaux à Jakarta, comme dans le reste du pays, sont actuellement débordés. Ils sont également confrontés à une véritable pénurie d'oxygène. 1040 personnes sont décédées au cours de la seule journée d'hier. C'est le plus lourd bilan enregistré en Indonésie depuis le début de la pandémie. Et face à l'engorgement et le manque de moyens des hôpitaux, certains habitants malades ne peuvent compter que sur leurs proches pour prendre soin d'eux. Évidemment, pas dans une chambre d'hôpital, mais tout simplement chez eux. C'est ce que fait, comme il le peut, cet Indonésien. Écoutons-le.
We need it because one of our family members is experiencing breathing difficulties and we are running out of oxygen. That's why I have to queue. We need it badly.
L'Afghanistan dans une situation militaire extrêmement délicate alors que les derniers soldats australiens ont plié bagage il y a quelques semaines, que l'armée américaine est également sur le point de partir. La guerre fait rage actuellement avec les talibans qui viennent de remporter une victoire très importante face aux forces gouvernementales. Élément d'explication avec Yelena Tomic de RFI.
Les plus hautes autorités militaires et sécuritaires ont beau vouloir rassurer sur leur capacité à repousser l'ennemi, leurs allégations sont contredites sur le terrain. Chaque jour, les talibans arrivent à conquérir de nouveaux territoires, faisant dire à certains experts que leur retour au pouvoir n'est désormais plus une hypothèse à exclure. Dernière illustration en date, l'assaut majeur opéré ce mercredi par les insurgés contre la capitale provinciale de Baghdi, dans le nord-ouest du pays. Et ce, quelques heures seulement après l'annonce du retrait de l'armée américaine à plus de 90%. Le retrait américain après 20 ans de guerre a débuté en mai, malgré l'inexorable avancée des talibans et le recul des forces afghanes, désormais privées du crucial appui aérien américain. Difficile dans ces conditions pour les forces afghanes de relever un défi de taille, reprendre le contrôle d'une partie des districts, en particulier autour des grandes villes, alors que les insurgés contrôlent déjà près des trois quart du territoire.
Banni des réseaux sociaux en janvier dernier, l'ancien président américain Donald Trump vient d'annoncer qu'il poursuivait en justice Twitter, Facebook, mais aussi Google, pas seulement d'ailleurs les entreprises, mais aussi les PDG respectifs de ces groupes de la Silicon Valley. Donald Trump, dont les comptes ont donc été fermés au lendemain de l'assaut du Capitole, le 6 janvier dernier, un assaut mené par certains de ses plus fervents supporters, il prétend, l'ancien président américain, il prétend avoir été injustement censuré.
We're demanding an end to the shadow banning, a stop to the silencing and a stop to the blacklisting, banishing and canceling that you know so well.
La Nouvelle-Calédonie, qui était sans gouvernement depuis près de 5 mois, vient d'élire un nouveau président. Il s'agit de Louis Mapou, candidat de l'Union nationale pour l'indépendance. Cet homme de 62 ans, qui a également milité dans sa jeunesse avec le FLNKS, est donc le premier président ouvertement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie depuis la signature des accords de Nouméa en 1998. Il s'est exprimé devant la presse peu après son élection. Écoutez-le.
C'est la première fois que le mouvement indépendantiste arrive et comme fait esprit, nous arrivons au moment le plus difficile de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie de ces 30 dernières années. On n'a pas jamais été, j'ai envie de dire, pour parler simple, autant préoccupé et embarrassé par l'enchevêtrement des questions. Que rencontre la Nouvelle-Calédonie, question sociétale, question économique, question conjoncturelle. Et il se trouve que ça nous tombe dessus.
Voilà, donc c'était Louis Mapou. Il vient d'être élu président de la Nouvelle-Calédonie quelques mois seulement avant le troisième et dernier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui se déroulera le 4 octobre prochain. On va maintenant faire un petit tour du côté de la France où, après une nette amélioration ces dernières semaines sur le plan sanitaire et la levée toute récente des dernières restrictions à l'approche de l'été, les autorités s'inquiètent désormais d'une possible quatrième vague du coronavirus. Le nombre de contaminations est reparti à la hausse ces derniers jours et parmi celles-ci, le variant Delta représente désormais 40% des infections, à tel point que le gouvernement envisagerait même de rétablir certaines contraintes, et ce, dès la semaine prochaine. Mais avant d'en arriver là, on fait le point sur la situation sanitaire dans l'Hexagone avec Nina Droff de RFI.
Les contaminations progressent. Santé publique France décomptait hier 3585 nouveaux cas de Covid-19. C'est 1200 de plus que mardi dernier et le 9e jour de hausse consécutif. Le taux d'incidence nationale, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, grimpe de 23 à 24 et le taux de positivité des tests enregistre également une légère hausse. Alerte notamment à Paris où le taux d'incidence atteint 54, alors que le variant Delta y est désormais majoritaire, il s'agit de la première métropole à refranchir le seuil d'alerte. En revanche, dans les Landes, où ce variant Delta est présent à 80%, le taux d'incidence se stabilise et repasse à 50. Cette hausse des contaminations, elle est surtout frappante chez les jeunes adultes. D'après les chiffres de Santé publique France, le taux d'incidence atteint désormais 124 chez les 20-29 ans. Il a presque doublé en une semaine. Point positif cependant, les rendez-vous pour la vaccination repartent à la hausse après 2 semaines de baisse, une vaccination massive étant le seul moyen d'échapper à une quatrième vague selon les autorités.
Et maintenant, un coup d'œil rapide à la météo du jour en Australie. 19 degrés à Perth où il y aura quelques averses, 16 degrés à Adelaide aujourd'hui sous les nuages. En revanche, grand soleil à Melbourne où le thermomètre affiche 13 degrés, 17 degrés à Sydney, 20 degrés et quelques averses à Brisbane, 27 à Cairns où il y aura des averses quasiment toute la journée, et puis 31 degrés à Darwin où le ciel aujourd'hui est tout bleu.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.